France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième saison d'été des accords internationaux. Aujourd'hui, nous allons parler du Brexit. Un pays ne se porte pas mieux en dehors de l'Union européenne. C'est la grande leçon du Brexit qui a arraché le Royaume-Uni du continent en janvier 2020 en promettant une économie dérégulée, faiblement taxée, libérée du carcan européen ainsi qu'une immigration maîtrisée. La Grande-Bretagne a toujours été à part dans l'aventure européenne. Churchill l'avait dit à De Gaulle pendant le débarquement de Normandie, entre l'Europe et le grand large, les Britanniques choisiront toujours le grand large. Mais 5 ans après la séparation, la Grande-Bretagne vit une grande désillusion. Certes, le décrochage économique annoncé et redouté par certains n'a pas eu lieu. La désagrégation du Royaume-Uni non plus, mais la promesse d'une Global Britain, plus forte toute seule, rayonnante à l'international, protégée par sa relation spéciale avec les États-Unis, n'a pas été tenue. Seul, le Royaume-Uni compte moins. Il s'est affaibli depuis le référendum de 2016. Il lutte avec les difficultés économiques et politiques. Et si l'immigration européenne a bien été freinée, elle a été remplacée par une immigration extra-communautaire, encore plus impopulaire. Les libertés supplémentaires se font attendre, si bien qu'aujourd'hui 58% des Britanniques veulent un retour dans l'Union européenne. Le mot à la mode, ce n'est plus le Brexit, mais le Brigret, le regret du Brexit. L'histoire, on le sait, ne manque jamais d'ironie. Donald Trump 1 avait applaudi dès demain le Brexit, première étape selon lui d'une décomposition de l'UE. 9 ans plus tard, en s'éloignant de l'Europe et en menaçant d'abandonner l'Ukraine, Donald Trump 2 sape le splendide isolement des Britanniques et les incite à remettre en cause le Brexit. En mai 2025, poussé par la menace russe et l'imprévisibilité américaine, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont scellé un nouveau partenariat stratégique qui renforce la coopération en matière militaire et d'armement. Un véritable tournant qui scelle le rapprochement entre Londres et Bruxelles, sans annoncer pour autant le retour du Royaume-Uni dans l'Union. C'est de ce nouveau partenariat, des leçons du Brexit et du nouvel élan de la relation franco-britannique dont nous allons parler aujourd'hui avec Michel Barnier. Bonjour.
Bonjour.
Ancien Premier ministre et négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, une expérience saluée par tout le monde et couchée dans un livre, La Grande Illusion, journal secret du Brexit. Michel Barnier, vous avez aussi sorti le mois dernier un nouvel ouvrage, Ce que j'ai appris de vous chez Calman Levy, ce sont les 130 leçons de toute votre vie politique. Et avec Alex Taylor, bonjour.
Bonjour.
Journaliste et écrivain britannique, mais vous préférez qu'on parle de vous comme un journaliste européen.
Et comment ?
Vous avez été naturalisé français juste après le Brexit. Bonjour messieurs. Alors, Michel Barnier, on a envie de dire tout ça pour ça. Est-ce que vous l'aviez prévu ? Est-ce que vous pensiez, quand vous avez négocié le Brexit avec l'Union européenne, cette négociation si difficile que l'histoire commencerait à repartir de l'autre côté 5 ans plus tard.
D'abord, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Personne n'avait imaginé clairement, franchement, que le Brexit allait se produire. C'était un événement improbable, y compris d'ailleurs pour les plus grands brexiteurs, M. Farage ou M. Johnson, un journaliste que je connais qui m'a rapporté une discussion qu'il a eue avec les deux quelques jours avant le référendum, et tous les deux disaient « ça ne passera pas ». Et c'est passé. Donc peut-être dans cette longue conversation que nous avons avec Alex Taylor, et je suis heureux de le retrouver, et vous-même, Isabelle Lasserre, peut-être pourrions-nous réfléchir aux raisons du Brexit. Mais votre question n'est pas celle-là. Votre question c'est « est-ce qu'on avait prévu le retournement ?» Ce qui était prévu, et ce que j'ai dit tout au long de la négociation à Madame May, puis à Monsieur Johnson, ce sont les conséquences du Brexit, qu'ils ont sous-estimées, qu'ils ont cachées, qu'ils n'ont pas voulu voir, qu'ils n'ont pas expliqué, ni pendant la campagne du référendum, ni juste après. Je suis assez frappé sur le plan démocratique qu'un événement aussi grave, aussi lourd de conséquences, ait pu être discuté dans un référendum sans qu'on donne toutes les informations aux citoyens, ait pu être engagé après le référendum pour mettre en œuvre le Brexit, puisque c'était la volonté britannique, sans qu'il y ait une commission mixte plurielle avec les décideurs syndicaux, les patrons britanniques, les associations, les partis politiques. Il n'y a pas eu de concertation, ni pendant, ni avant, ni depuis. Et ça, ça me paraît même du point de vue démocratique assez anormal. Mais je réponds à votre question. Toutes les conséquences étaient prévisibles et toutes les conséquences sont négatives. Je ne dis pas, Isabelle Lasserre, que tous les problèmes des Britanniques depuis le Brexit sont dus au Brexit. Ce n'est pas vrai, ce ne serait pas juste. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tout est plus compliqué ou moins facile ou plus difficile à cause du Brexit parce qu'ils ont pris une décision insensée qui a consisté, pour un grand pays producteur, exportateur, ouvert sur le monde, à se priver d'un accès immédiat et facile au plus grand marché du monde, qui est le marché européen. Donc, sortant du marché unique comme ils l'ont voulu, avec toutes les conséquences, on a reconstruit des barrières qui n'existaient pas avant. C'est pour ça que c'est un non-sens.
Et pourtant, à l'époque, le jour où on a célébré le Brexit Day, on faisait la fête. On écoute un son du Guardian.
5, 4, 3, 2, 1...
Ça y est, c'est fait. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. 40 ans d'histoire s'achèvent au nom de la souveraineté et de l'indépendance. C'est l'aube d'une nouvelle ère. Et peut-être le moment d'un véritable renouveau et d'un changement national.
Alex Taylor, vous vous souvenez de ce soir-là? Vous étiez triste, hein? Comment vous avez vécu ce moment?
J'étais triste. Et comment? J'ai aligné des plateaux de télévision la veille, parce que j'étais allé sur toutes les chaînes news en France, en disant, bon, il y a quand même de l'espoir, parce que tous les sondages vont quand même pas aller jusque là. J'ai dormi 2 heures. J'ai branché la BBC. Je suis tombé sur Sunderland, qui était la ville, la première ville où les résultats étaient clairs, que c'était we're out. On est sorti. Moi, en tant que Britannique, c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce que vous me présentez comme un Européen, parce qu'on oublie tous les Britanniques de ma génération. Moi, j'ai grandi comme un Européen. Mon père a gagné des médailles dans la Seconde Guerre mondiale, mais il a attendu son fils et 10 ans pour faire des... On n'avait pas beaucoup de moyens. Il faisait des tournées d'Europe de camping dans les années 60. Il voulait montrer à son fils le merveilleux continent qu'il avait vu dans des conditions absolument affreuses. Mais cette génération-là n'était pas la génération du Brexit, ceux qui avaient fait la guerre. Ils voulaient une Europe. C'est cette génération qui a fait entrer en 73 le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, dans le marché commun à l'époque. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Moi, je regardais le concours Eurovision de la chanson, je me suis dit, mais c'est génial d'être européen. Moi, je suis britannique et européen. C'est la personne que je suis. Et juste un mot pour dire, parce que c'est important de le signaler, parce qu'en France, on ne le sait pas. Chaque fois que je le dis, les gens disent, ah bon? Je n'avais pas le droit de vote. J'étais citoyen britannique. Je n'étais pas français à l'époque, en 2016, lors du référendum. Mais puisque je n'habitais plus en Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans, moi, qui suis beaucoup plus... affecté par le résultat de ce vote qui menaçait mes droits de vivre là où j'étais en France, j'allais perdre mes droits, je n'avais pas le droit de vote. Et dans un référendum qui a été gagné à 51,9%, si vous avez consulté les 500 000 Britanniques, dans mon cas, qui vivaient l'Europe, si on avait eu le droit de vote, le résultat aurait sans doute pas été le même. Donc c'était pas... Je tiens toujours à le signer parce qu'on me dit toujours c'est le vote démocratique de votre peuple, mais en fait, pas si démocratique que ça.
Mais si on revient à la campagne du référendum lui-même en 2016, c'est pas la seule anomalie. L'anomalie de tous les Britanniques vivant à l'étranger qui ne peuvent pas voter. Vous en faisiez partie, Alex Taylor. Mais l'autre anomalie, c'est le mensonge. C'est le mensonge délibéré pendant la campagne avec des arguments simplifiés, populistes, démagogiques, des mensonges. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue dans mon bureau après le Brexit, après le vote, avec Monsieur Farage, Nigel Farage, qui est l'un des porte-parole et qui d'ailleurs retrouve des couleurs actuellement au Royaume-Uni. Il faut faire attention.
Un des hommes du Brexit.
Il faut faire attention. C'était le principal animateur de la campagne du Brexit avec Johnson et quelques autres. Il était appuyé d'ailleurs à l'époque, je le dis en passant, par les réseaux russes et par certains Américains comme Monsieur Biden, qui est proche du président Trump actuellement. Monsieur Farage, quand il vient dans mon bureau, je lui pose une ou deux questions et je lui dis après le Brexit, Monsieur Farage, puisque nous y sommes, nous sommes en train de faire le traité de sortie Comment est-ce que vous voyez les relations entre l'Union européenne et votre pays ? Et là, il a une réponse immédiate. Il me dit « Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. » Après le Brexit, l'Union européenne disparaîtra. Cet homme, comme quelques autres qui le soutenaient, voulait faire imploser l'Union européenne de l'intérieur à travers le Brexit. Et je me souviens d'un autre moment de cette conversation où je lui dis, en lui montrant cette fameuse photo de Boris Johnson devant le bus rouge, le bus qui s'est promené dans toute la campagne du Brexit, avec Johnson à l'intérieur, qui haranguait les foules en disant, comme c'est marqué sur le bus, on va récupérer 320 millions ou 350 millions de livres sterling qui nous sont pris à Bruxelles, on va les récupérer pour les injecter dans le système social de santé anglais. C'était pas possible, c'était pas vrai, c'était pas des chiffres justes. Et je lui dis, Monsieur Farage, comment vous pouvez faire ça, dire un mensonge pendant la campagne ? Et il me répond, mais ah ça vous avez raison, Monsieur Barnier, j'avais dit à Boris qu'il fallait pas le faire. Donc ce sont des gens qui sont cyniques, ce sont des gens qui sont sans scrupules, ils ont raconté des histoires. Alors à partir de là, il faut être juste aussi, et ne pas confondre le populisme qu'ils expriment, qu'ils représentent avec le sentiment populaire. Si le Brexit s'est produit, c'est qu'il y a un sentiment populaire assez puissant dans beaucoup de régions pauvres au Royaume-Uni, des régions en difficulté, où il n'y a plus d'usines, où l'agriculture a disparu, no future, il y a aussi des problèmes d'immigration non contrôlés, et ce sentiment d'exclusion, le sentiment qu'on n'est pas considéré. Il faut faire attention à ce sentiment. Parce qu'il existait au Royaume-Uni, il existe toujours d'ailleurs, il existe aussi dans beaucoup de régions européennes et françaises. Et je répète, ne pas confondre ce sentiment populaire qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre, auquel il faut répondre au niveau local, régional, national et européen, et avec le populisme. Et nous serions bien inspirés d'écouter ce sentiment populaire dans notre pays, parce que si le Brexit était improbable et qu'il s'est produit, je veux dire gravement qu'il y a d'autres événements improbables qui peuvent se produire.
Alex Taylor, il y a eu d'autres mensonges, notamment le mensonge migratoire, le mensonge économique. Enfin, toutes les promesses du Brexit ont été des mirages. Est-ce qu'on peut revenir sur toutes les promesses qui n'ont pas été tenues ?
Oui, je voudrais dire un petit mot sur le mensonge des Brexiteurs. C'est clair que les Brexiteurs ont beaucoup menti, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que j'appelle les mensonges beaucoup plus pervers. Je vous donne un exemple, quelque chose qui me touche beaucoup, sur la libre circulation des personnes. Je suis allé, pendant la campagne du Brexit, le référendum, je suis allé sur le fact-checker de la BBC. Alors, BBC, censé être, à juste titre, un repère de vérité et d'objectivité. Je suis allé sur leur fact-checker. Le fact-checker de la BBC a défini free movement, la libre circulation dans l'Union européenne, comme la possibilité pour les Européens de venir s'installer et travailler en Grande-Bretagne. C'était tout. Ils n'ont pas mentionné du tout les millions de Britanniques. Pour eux, c'était que la BBC, hein, que les Européens qui viennent chez nous. C'est-à-dire, quelque part, ça nourrissait cette xénophobie qui était ventilée par les Brexiteurs. Et Nigel Farage, c'était encore pire, parce que c'est vrai qu'il s'est dissocié de la promesse pour le système de santé, mais il a fait pire. Une semaine avant le vote, il a fait cette affiche où il y avait des breaking points, où on voit des centaines de migrants qui essaient de venir en Europe, dont ça a été prouvé que certains des visages ont été un peu noircis pour que ça fasse encore plus...
Non, mais c'était plus grave que ça. C'était délibérément une confusion entre l'immigration venant de pays tiers, et notamment sur cette photo breaking point, une photo de réfugiés syriens.
Oui, ah bah complètement, oui.
Comme si l'Union européenne allait être envahie, alors que le débat en cause dans le Brexit, c'était la liberté de circulation entre les Européens dans les deux sens,
oui,
dans les deux directions. Combien de médecins, d'infirmières, de soignants britanniques, qui d'ailleurs sont partis depuis, venaient de Bulgarie, de Roumanie, et faisaient fonctionner le système de santé britannique. Mais c'était pas juste, c'était pas honnête de confondre la liberté de circulation, qui est une des quatre libertés entre Européens, les Britanniques ont voulu mettre fin à ça, avec l'immigration plus ou moins clandestine de pays tiers venant d'Afrique ou d'ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de mensonges, mais il y a eu aussi, je le redis une deuxième fois, des racines et des raisons à ce vote qu'il faut comprendre et qu'il faut écouter, parce que personne n'est à l'abri. Alors maintenant, quelle est la valeur ajoutée du Brexit ? Moi, je n'en vois pas. Ni M. Farage, ni M. Johnson ne m'ont convaincu de la moindre valeur ajoutée du Brexit, puisque pour un grand pays exportateur, c'était un non-sens, je le répète, de quitter le marché unique qui était à côté d'eux. Ils étaient dedans. Et c'était le lieu où 60%, 55% des productions et des services britanniques sont exportés. Donc ça continue les exportations, puisqu'on a fait un traité qui garantit ces exportations sans droit de douane et sans quota. Mais tout est plus compliqué, puisque nous sommes obligés de contrôler, comme pour tout pays tiers, ce qui vient chez nous venant de ces pays tiers.
C'est encore plus tragique quelque part, parce qu'il y avait quelques restants. Moi, je vis à Paris, il y avait des Marks & Spencer à Paris. Donc, pendant la période juste après le Brexit, on continuait à essayer d'importer, parce qu'il y a quelques expatriés comme moi qui raffolent de la bouffe anglaise. Les Marks & Spencer ont tellement essayé d'importer, mais c'était de plus en plus dur. Et il y a 2 mois, juste, les derniers corners, parce qu'ils ont continué à exporter seulement quelques produits, la confiture, le thé et le pain. La gare Montparnasse, il y avait un petit corner de Marks & Spencer. Et au mois de mai, ça s'est terminé.
On va écouter un petit son de C'est dans l'air. C'est France 5, le 19 mai 2025.
C'est un rendez-vous inédit depuis le Brexit. Sommet britannico-européen aujourd'hui à Londres. Keir Starmer accueille les dirigeants des 27 pour retisser des liens distendus depuis 5 ans. Nous sommes en train de conclure un nouveau partenariat stratégique adapté à notre époque qui apportera des avantages tangibles en matière de sécurité, d'immigration clandestine, de prix de l'énergie, de commerce et plus encore.
En effet, c'est un grand jour parce que nous tournons une page et nous ouvrons un nouveau chapitre très important en ces temps où nous voyons monter les tensions géopolitiques.
Principal point de l'accord, signé après d'âpres négociations, un nouveau pacte de défense liant Londres aux Européens. Les Britanniques seront inclus aux réunions ministérielles de l'UE sur la défense, ainsi qu'aux missions militaires menées par l'Europe en dehors de l'OTAN. Les entreprises britanniques auront aussi accès aux 150 milliards d'euros du futur programme européen d'investissement pour la défense.
Cette relation est basée sur nos valeurs communes, nos intérêts communs. Nous sommes des voisins, nous sommes des alliés, nous sommes des partenaires et nous sommes des amis.
Voilà, et alors je voudrais qu'on écoute un deuxième son pour vous montrer les deux côtés de la facette. C'est celui de Tony Blair qui tente en vain de trouver des avantages au Brexit. C'est un extrait du documentaire Royaume-Uni, du Brexit au Brigret, de Thomas Johnson et Eric Albert. C'est en 2024.
Qu'est-ce que le Brexit a apporté de bien à ce pays?
Je crois que ça a apporté
une prise de conscience de ce que le pays doit faire pour lui-même. Parce que le Brexit a évidemment rendu les choses plus difficiles. Donc l'accent est mis sur ce qu'on est obligé de faire. Ça a aussi accéléré le changement de gouvernement, ce qui, de mon point de vue, est une bonne chose. Mais comme mes hésitations l'indiquent, c'est un combat.
Michel Barnier, avec le recul, vous qui avez négocié au jour le jour toute cette histoire, comment on peut expliquer une telle erreur?
Oui, en écoutant Tony Blair, il a lui-même parlé de ses hésitations, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas très convaincant. Et puis le reportage d'avant sur le nouvel élan qu'on peut donner, qu'on doit donner aux relations entre l'Europe et le Royaume-Uni, je me dis que de temps perdu et que de dégâts, faute d'avoir peut-être anticipé, c'est la réponse à votre question, les colères, les angoisses des citoyens britanniques dans beaucoup de régions, ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de désespérance, de plus avoir d'avenir dans telle ou telle région, qui ont été toutes mises au débit de la mondialisation. C'est ça la campagne du Brexit. C'est à cause de la mondialisation et donc de l'Europe, raccourci anormal et injuste, que vous avez tous ces problèmes. Et donc on a fait croire que c'était la faute de l'Europe, comme c'est le cas de beaucoup de personnes chez nous à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est un discours qu'on entend souvent. Encore une fois, il faut écouter ce sentiment. Il faut lui répondre. On doit apporter des réponses au sentiment d'exclusion des régions, pas avoir de services publics adaptés ou suffisants de médecins, de transports. On doit recréer une capacité industrielle, garder une capacité agricole. Le Royaume-Uni a fait la même erreur que nous depuis 30 ou 40 ans. On a abandonné notre industrie en France. Le Royaume-Uni aussi. C'est pas le cas de l'Allemagne, c'est pas le cas de la Suède, c'est pas le cas achats de l'Italie. Et nous avons préféré les services, parfois l'illusion des services à la capacité industrielle ou agricole. Il faut la recréer et puis s'occuper des transports. Toutes les réponses à ces questions ou à ces angoisses ne sont pas à Bruxelles. Elles sont parfois à Paris ou elles étaient à Londres. Elles sont dans les régions, parfois même plus près des gens quand on parle des services médicaux. Et puis il y a eu, dans un grand pays qu'est le Royaume-Uni, une indifférence ou un éloignement qu'on connaît bien aussi en France à l'égard du débat politique sur l'Europe. Combien d'hommes politiques rasent les murs chez nous ? Ont l'Europe honteuse ? On n'ose pas assumer ce choix qu'on a voulu en 50 avec le traité de la CECA, en 57 avec le traité de Rome. Tout ce qui se passe depuis prouve qu'on a raison d'être ensemble, qu'on peut défendre notre modèle de civilisation, nos valeurs, nos intérêts, mieux ensemble que chacun chez soi ou chacun pour soi. Préférer être solidaire plutôt que d'être solitaire. Et donc, je recommande aussi que les hommes politiques dans notre pays, comme c'est trop tard pour le Royaume-Uni, comme les autres Européens, soient un peu plus courageux. Il ne faut pas dire que tout va bien à Bruxelles, c'est loin d'être le cas. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Les Britanniques qui critiquent la bureaucratie comme nous ont raison. Critiquent les fonctionnaires qui prennent le pouvoir parce que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Ils ont raison. Critiquent l'excès de normes, comme on a vu depuis 5 ou 6 ans, une sorte d'inflation normative qui pénalise ou qui emprisonne l'esprit d'entreprendre. Ils ont raison. Naïveté commerciale, on a ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. Ni les Américains ni les Chinois ne l'ont fait. Donc on a raison de dire qu'il faut être moins naïf, qu'il faut se protéger, qu'il faut être capable de faire de la défense ensemble. C'est toutes ces leçons qu'on est en train de tirer et qu'à Bruxelles, on tire plus ou moins lentement. Mais pour autant, prenons garde. Je reviens à un schéma que M. Cameron, Premier ministre à l'époque, qui a choisi d'organiser ce référendum. Il avait présenté un tableau que je ne peux pas illustrer puisque nous sommes à la radio, qui montrait les 10 pays les plus importants du monde, le G10, tous les 10 ans, de 2010 à 2050. Il y avait en 2010 4 pays européens dans le G10. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde l'observation de ce tableau à l'aune de l'évolution économique, le progrès? Personne ne nous attend dans le monde. Parfois, on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Et donc, les autres régions du monde progressent. Et la Chine, et le Brésil, et l'Inde, et les États-Unis, évidemment. Et donc, tous les 10 ans, il y a un des 4 pays qui disparaît. Un des 4 pays qui est éjecté du tableau. Et en 2050, nous sommes sortis, l'Italie est sortie, l'Angleterre est sortie, il n'y a plus que l'Allemagne qui est 9e dans le G10. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que à la table ronde de ceux qui organisent l'ordre ou le désordre du monde, il n'y a plus d'Européens. On ne peut être à cette table qu'ensemble, appuyés sur ce qui est notre principal atout, et que les Britanniques ont décidé de quitter, qui est le marché unique. On est à cette table en tant qu'acteurs de l'ordre ou du désordre du monde, faisant respecter nos intérêts et notre modèle, que si on est ensemble. Ça n'empêche pas, comme vous l'êtes, Alex Taylor, d'être patriote britannique et européen. Moi, quand même, je m'honore et je suis fier de dire que je suis patriote français, fier d'être mon pays définitivement, et européen. En plus, pas à la place, en plus. Mais si on n'est pas européen en plus d'être patriote, on est foutu, on n'est plus à la table, on devient définitivement sous-traitant, sous influence des Chinois et des Américains. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour que mon pays soit sous-traitant.
Oui, parce que Alex Taylor, en fait, une des choses sur lesquelles comptait la Grande-Bretagne à l'époque, c'est sur sa relation spéciale avec les États-Unis. Et en fait, elle s'est effritée avec le Brexit. Ça aussi, c'était un mensonge, non ?
C'est devenu beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y a un problème des médias de manière générale. Je vous écoute et moi, j'ai fait des émissions sur l'Europe pendant 40 ans dans les médias en France. Je faisais une émission qui s'appelait Continental sur France 3. C'est génial, ça avait le mérite d'exister. Mais je me rappelle très bien que mon directeur des programmes à l'époque m'a appelé. C'était une émission de 2h30 tous les matins. On parlait de l'Europe. Et mon directeur des programmes, je ne nommerai pas, m'a appelé pour me dire « Alex, c'est très bien ce que vous faites, mais ne dis pas trop le mot « Europe » parce que ça fait fuir les téléspectateurs. » Donc j'ai dit « On fait une émission sur l'Europe, je n'ai pas le droit de dire le mot « Europe ». Et en fait, je me suis sorti par une pirouette parce que je disais toujours « Notre continent ». Ça avait un côté affectif. Mais on en est là dans les médias déjà en France. Ce qu'on ignore souvent en France quand on parle du Brexit, c'est le rôle des médias en Grande-Bretagne. Vous avez une presse qui est férocement contre l'Europe et qui ment sur l'Europe, non seulement depuis le Brexit, mais depuis des années. Parce qu'on me répond toujours, nous avons les mêmes en France. C'est absolument faux. Vous avez des journaux qui titrent à 3 millions d'exemplaires de Sun, au plus fort il y a 10 ans, se vendait à 3 millions d'exemplaires par jour. The Express, qui est un journal, mais férocement, il n'y a rien comme ça en France, qui jour après jour, vous avez 5 ou 6 titres, comme The Daily Mail, 3 millions à nouveau, qui titre, par exemple, je me rappelle d'un titre pendant The Express, vous tapez sur Google les unes xénophobes de The Express. Donc, quand vous allez au supermarché en Grande-Bretagne, parce qu'on trouve la presse partout, et en plus, les titres s'arrachent. Le vendeur, vous avez une qui dit « Méfiez-vous des Roumains qui vous piquent des choses dans votre
mais
maison. »
Je peux, la une je du peux jour, donner un autre exemple, cher Alex Taylor. Dans le livre que vous avez bien voulu citer, Isabelle Lasserre, que je viens de publier, qui s'appelle « Ce que j'ai appris de vous », je raconte en effet, à travers 130 chroniques assez brèves, des moments où j'ai compris ou appris des choses, mais j'ai appris notamment la violence, la brutalité de cette presse people, de ces journaux britanniques. Et par exemple, j'ai affronté moi-même pendant ces 4 ans toutes les critiques, toutes les rumeurs. Je me souviens que le Daily Mail a publié sur 2 pages un article au moment du Covid, m'accusant d'avoir transmis le Covid. Personnellement, je venais d'avoir le Covid au mois de mars 2020, d'avoir transmis à la délégation britannique et au Premier ministre britannique le Covid. Barnier est-il le patient zéro ? Voilà le genre de campagne auquel on a eu droit. Mais ça n'explique pas tout. Et
ça
maintenant,
beaucoup.
Ça explique peut-être beaucoup.
C'est un honneur, Michel Barnier, d'être traité ainsi par la presse de Murdoch. On va juste écouter un son. On va écouter un extrait du discours de Keir Starmer en juillet 2024. Après son élection, à l'époque, c'était un raz-de-marée qui était considéré comme une revanche sur les politiques conservatrices du Brexit. Lui qui veut absolument renouer le dialogue avec ses partenaires européens.
Oui, il s'agit d'une remise à zéro. Une remise à zéro de nos relations et non de nos institutions. Il ne s'agit pas de réintégrer l'Union européenne, mais il s'agit certainement d'une remise à zéro. Il me semble que beaucoup de gens pensent que le Royaume-Uni s'est trop replié sur lui-même après le Brexit, qu'il ne s'intéresse plus autant qu'avant à sa place sur la scène mondiale.
Alors, Michel Barnier, est-ce qu'on est en train de changer d'époque ? Est-ce qu'on revient en arrière ? Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de voir le début de la fin du Brexit ?
D'abord, ce que j'observais dans le débat politique britannique, c'est que les conservateurs qui ont été à l'origine de ce Brexit, qui l'ont voulu, entraînés par leur extrême droite, M. Farage, n'ont pas le courage de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et puis les travaillistes de l'autre côté, qui sont maintenant au pouvoir, et avec un homme compétent, Keir Starmer, que je connais bien, que j'ai vu plusieurs fois pendant la négociation, eux, ils n'ont pas le courage de... parce qu'ils ne veulent pas commettre d'erreur. Ils ne veulent pas commettre une erreur. Les autres ne veulent pas reconnaître une erreur. Eux ne veulent pas en commettre. Bon, maintenant, regardons devant. Les conséquences du Brexit sont là. Je dis d'ailleurs à nos auditeurs que les Britanniques pouvaient très bien faire un autre choix s'ils avaient voulu sortir de l'Union européenne et rester dans le marché unique, comme les Norvégiens le sont aujourd'hui.
Oui, mais c'était le Brexit hard à l'époque.
Ils voulaient un Brexit, hard Brexit, c'était le choix, sortir de tout avec toutes les conséquences. Donc il y a des conséquences sur lesquelles on ne peut pas revenir, sauf le jour où les Britanniques demanderont à rentrer ou à revenir dans le marché unique et dans l'union douanière. Ça, c'est leur choix, la porte est ouverte, ils connaissent les conditions. En attendant, il y a plein de sujets. C'est pour ça que j'ai été très heureux de la rencontre récente entre les dirigeants de l'Union européenne et M. Starmer. Il y a plein de sujets qu'on a laissés de côté à la demande des Britanniques. J'avais proposé en 2019 à M. Johnson d'ouvrir un chapitre de négociation sur la politique étrangère, sur la défense, sur la sécurité et sur la coopération en Afrique. Il avait commencé par dire oui, et quelques mois plus tard, il m'a dit finalement on n'ouvrira pas ces chapitres, ce que j'ai regretté. Donc on va... faire, pour ça que je disais tout à l'heure, que de temps perdu. On va faire maintenant ce qu'on aurait pu faire en 2020 et 2021, ouvrir des chapitres de coopération nouvelles. Il y a tant à faire. Je parlais des grands défis qui sont organisés autour de cette grande table des dirigeants du monde. Il y a tellement de défis qui nous dépassent les uns et les autres, qui sont des défis globaux. Le plus grave est sans doute le changement climatique, la sécurité dans le monde, la pauvreté en Afrique, le challenge de l'intelligence artificielle qui va tout changer. Tous ces défis, comment on les affronte? Comment on défend nos intérêts? Comment on défend les citoyens? Comment on défend nos valeurs? Si on n'est pas ensemble, on n'a pas la masse critique suffisante. Et encore, peut-être dans certains domaines, ça ne suffit pas d'être ensemble au niveau européen. Mais à moins, à tout le moins, il faut être ensemble. Et donc, sur certains de ces défis que je viens de citer, changement climatique, la stabilité financière du monde, où les Britanniques ont une place importante à tenir, la pauvreté en Afrique, la lutte contre le terrorisme, la stabilité, la paix en Europe, avec la fin de la guerre en Ukraine, tous ces défis-là, il vaut mieux les discuter, Il vaut mieux les aborder, il vaut mieux agir avec les Britanniques plutôt que chacun chez soi.
Alex Taylor, le rapprochement en fait qu'on voit aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Europe, il est dû à Vladimir Poutine ? Il est dû à Donald Trump ? Ou il est dû simplement à l'échec du Brexit, ou les trois à la fois?
Mais c'est les trois à la fois, mais c'est très clairement... Enfin, la tragédie du Brexit, c'est tout ce que vous venez de dire. La plupart des Britanniques, vous avez cité des chiffres, mais moi j'ai des sondages, ça dépend de quel sondage, jusqu'à 65% regrettent la décision. La tragédie, c'est... Ils savent que c'est une erreur, mais ils ne peuvent pas revenir, parce que le Brexit est une telle cicatrice dans la société britannique. Ça a divisé des familles, il y a des amis qui ne se parlent plus depuis le Brexit. Moi, j'ai perdu des amis qui ont voté pour le Brexit, et je ne les vois plus. Donc, c'est une telle cicatrice, ils ne sont pas prêts à prendre la décision démocratique, malheureusement, de revenir, mais ils se rendent compte, avec un exemple complètement grotesque. Ils ont construit tout un parking pour des camions à Savington, dans le Kent, parce qu'ils voulaient reprendre le contrôle des frontières. Non, ils ont perdu le contrôle de l'immigration, qui a quadruplé depuis le Brexit, mais ils voulaient contrôler les produits d'importation. Mais en fait, ils se sont rendus compte que quand on contrôle 75% des produits alimentaires qu'on apporte, qui viennent de l'Union européenne, si on les contrôle trop strictement, il y a des rayons vides. Donc ils ont reporté, je crois, ces 8 ou 9 fois le fait d'appliquer ces contrôles. Donc ils n'ont jamais fait, ils ont construit un énorme parking de camions dans le Savington, et avec ce nouvel accord, le reset qu'ils ont négocié, ces contrôles deviennent encore moins nécessaires. Donc ils cherchent maintenant à revendre ce parking qui a été construit, qui a coûté 300 millions d'euros, pour rien du tout. Donc ils se rendent compte que le Brexit, c'est une erreur, c'est stupide. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu le droit de venir pour les jeunes, surtout les jeunes sont furieux. Les jeunes qui ont voté 80% contre le Brexit, ils se rendent compte que c'est idiot, qu'ils ne peuvent plus faire ce que moi j'ai pu faire, c'est-à-dire venir étudier, travailler dans un autre pays.
Michel Barnier, est-ce que sans Vladimir Poutine et sans Donald Trump 2, aurait-on eu ce rapprochement, ce réchauffement des relations ?
Je pense que oui. Je pense que Keir Starmer, devenant Premier ministre du Royaume-Uni, était dans l'idée, parce qu'il sait au fond de lui que c'est une erreur d'avoir quitté le marché unique, et beaucoup de ses amis aussi, et de plus en plus de Britanniques, qu'il fallait non pas revenir en arrière, non pas revenir dans le marché unique, cette affaire est terminée en tout cas pour au moins une génération, mais en tout cas rétablir des relations avec lucidité, parce qu'il faut regarder le monde tel qu'il est, et c'est le cas de M. Starmer. Donc je pense qu'on aurait trouvé le moyen sur les questions de sécurité, de défense européenne, de politique étrangère, harmoniser nos positions, la coopération avec ce très grand continent qu'est l'Afrique, et puis tous les nouveaux enjeux, je pense à l'énergie ou à l'intelligence artificielle, trouver des moyens de coopérer. C'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est une bonne chose. Pour autant, on ne va pas revenir en arrière sur le traité que j'ai négocié. On peut améliorer son fonctionnement, par exemple sur les contrôles
sanitaires. Pourquoi on ne peut pas revenir en arrière ?
Et parce que ça serait une porte ouverte. Vous ne pouvez pas avoir les avantages du marché unique, pas de contrôle, comme c'est le cas entre nous, Européens, et puis ne pas avoir les contraintes ou les disciplines, notamment de participer au financement et de respecter les règles. Les Britanniques ont voulu retrouver le contrôle, get back control, pas seulement sur leurs frontières, on a vu que ce n'était pas vrai, mais aussi sur leur législation. En Europe, ce n'est pas les autres qui décident pour nous. On ne décide plus tout seul, on décide avec les autres, de règles communes. Les Britanniques ne voulaient plus ça, donc ils ne peuvent pas avoir les avantages du marché unique sans avoir les contraintes ou les disciplines que nous nous imposons ensemble. Donc, ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En Allemagne, on dit on ne peut pas danser dans deux mariages à la fois. C'est comme ça. Et s'ils veulent revenir, la porte est ouverte et on rediscutera. En faisant attention à une chose, c'est que plus ils s'éloignent de notre législation, notamment sanitaire, écologique, normative, plus c'est compliqué de revenir, hein, parce qu'il faut, le jour où ils reviennent, qu'ils adaptent leurs lois au cadre européen. Ça, c'est le marché unique. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, avec M. Trump, qui nous agresse, ou en tout cas qui est très agressif, avec M. Poutine, qui lui procède à une agression militaire contre un pays souverain de l'Europe, non pas de l'Union européenne, mais de l'Europe, on a des raisons de bien voir où se trouvent nos intérêts. Et notre intérêt, il est lié principalement au marché unique. Le grand marché unique qu'on a construit depuis 1950, étape par étape, c'est bien davantage qu'une zone de libre-échange, comme les Britanniques l'ont cru ou les Américains le croient. C'est un écosystème complet, avec des normes, des standards, parfois trop, des régulations communes, des supervisions communes, une juridiction commune, la Cour de justice. C'est ça qui fait que nous avons de la puissance et que M. Trump, au bout de la route, sera obligé de nous respecter s'il veut qu'on le respecte. Et les Chinois aussi. Le marché unique, on n'y rentre pas si on ne respecte pas les règles, si on n'est pas soumis à la supervision des institutions européennes. Et donc, c'est notre force. 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises qui forment un écosystème complet. Encore une fois, c'est notre principal atout et c'est pour ça que c'est assez insensé que les Britanniques l'aient quitté.
Alex Taylor, un retour un jour du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'est quelque chose qui vous paraît possible ? Vous rêvez de ça ou pas ?
Non. Et moi, en tant qu'Européen, en tant que Français, je dis qu'il faut vraiment faire gaffe à les laisser rentrer. Parce qu'en fait, ils ont passé leur temps quand ils étaient dedans à négocier des opt-out. Et maintenant, enfin, moi, je lis la presse anglaise hein, tous les jours. Il ne se passe pas une journée où ils ne demandent pas des opt-in. Chaque jour, il y a des opt-in qui souhaitent. En fait, le problème, c'est que puisqu'il y a cette presse qui ment quotidiennement sur l'Europe, ils ne se rendaient pas compte que les avantages du marché unique et de l'union douanière, ce n'était pas un état de fait déjà. Pour eux, l'Union européenne, c'est quelque chose qui établissait des obstacles. Donc, ils s'attendaient à ce qu'une fois qu'ils quittent ces institutions, comme vous dites, à ce qu'ils gardent des avantages. Il faut toujours utiliser la métaphore de la salle de gym. C'est-à-dire qu'ils font comme si, s'ils ne payent plus l'abonnement à la salle de gym, ils sont outrés parce que la salle de gym, ah bah, vous ne pouvez plus utiliser le sauna ou l'appareil elliptique. Donc ils sont outrés par ça. Il ne se passe pas des mois sans qu'il y ait la presse qui s'insurge en disant mais l'Europe nous met des bâtons dans les roues pour vendre nos belles confitures.
Les conséquences sont innombrables.
Vous n'êtes pas encore prêt à reprendre votre passeport britannique.
Les conséquences sont innombrables. Vous parliez de passeport. Quand vous êtes dans le marché unique, comme les 27 pays européens y sont, il y a un passeport pour les chiens et les chats. Et donc, vous circulez non seulement librement comme citoyen dans l'Union européenne, mais vous avez aussi ce passeport sanitaire aussi pour les animaux domestiques. Quand vous êtes dans l'Europe, bien sûr, on doit respecter les mêmes normes, les mêmes règles pour la sécurité sanitaire, mais les produits circulent librement. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs respecter les normes pour qu'on puisse exporter nos fromages, nos vins dans d'autres pays européens. Quand vous êtes en dehors de l'Union européenne, en dehors du marché unique, tout est contrôlé. Et notamment, nous allons contrôler aussi, puisque M. Trump discute actuellement avec les Britanniques d'un accord commercial, il y a par exemple un produit américain que nous ne voulons pas chez nous, qui est le poulet chloré. Les Américains, ils élèvent leurs poulets, très bien, et puis la manière de les sécuriser, si je puis dire sur le plan sanitaire, c'est de les tremper dans un bain de chlore. Moi, j'ai toujours, quand j'étais ministre d'agriculture, et depuis, dit pas de poulet chloré, on refuse, nous ne voulons pas, ça ne répond pas à nos normes sanitaires et alimentaires européennes. Nous allons vérifier que les poulets chlorés, s'ils arrivent au Royaume-Uni, n'arrivent pas chez nous par l'intermédiaire de l'accord commercial qu'on a avec les Britanniques. C'est tous ces contrôles-là qu'on a rétablis. C'est pour ça que c'est absolument insensé d'être sorti du marché unique, parce qu'on a reconstruit des barrières douanières non tarifaires qui n'existaient pas avant.
Alex Taylor, le reset, c'est-à-dire le réchauffement des relations désirées en fait par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, il sert la relation franco-britannique, c'est-à-dire que là il est en train de donner un nouvel élan dans le domaine militaire et de la défense pour l'aide à l'Ukraine, donc c'est quand même très important, ça c'est une bonne nouvelle, non ?
Ah, c'est une bonne nouvelle. La tragédie, c'est que Keir Starmer est absolument apeuré par ce qui s'est passé avec Nigel Farage. Parce que Nigel Farage, en ce moment, est le premier dans les sondages.
En fait, il a gagné une élection partielle.
Bah, il a reformé un nouveau parti. Enfin, il y avait le Brexit Party qui s'est mué maintenant en quelque chose qui s'appelle Reform, qui est en haut des sondages. Au moment où je vous parle, oui. S'il y avait des élections législatives en Grande-Bretagne, Nigel Farage serait le premier ministre. Donc, Keir Starmer, qui était monsieur anti-Brexit à mort quand il était dans l'opposition, se croit obligé maintenant d'appliquer ce qu'il appelle ses lignes rouges. Et l'exemple flagrant de ça, c'est qu'il refuse de négocier sur la mobilité des jeunes britanniques. L'impossibilité pour les Européens, les jeunes Européens, de venir étudier, travailler. Donc il dit, oui, mais ce n'est absolument pas la libre circulation des biens. Il a fait un discours récemment qui était assez choquant pour des gens qui ont cru à son enthousiasme européen, où il a parlé de cette période sordide où il y avait trop d'immigration en Grande-Bretagne. C'est un discours qu'il a emprunté à Nigel Farage. Donc il se croit obligé de suivre le modèle de ce nouveau parti pour ne pas effrayer ses électeurs qui ont abandonné les travaillistes pour voter pour l'extrême droite de Farage. Il essaie de les récupérer, mais à mon avis, il ne les récupérera jamais. Il est en train de perdre tout ce centre de gens qui sont les Britanniques, une majorité maintenant, qui sont quand même assez pro-européenne. Donc c'est ça la tragédie de Keir Starmer, c'est qu'il se croit obligé d'aller chasser sur l'électorat qu'il a perdu à l'extrême droite. Il veut les faire revenir, mais il est en train de perdre tout le centre pro-européen.
Mais Michel Barnier, quand Keir Starmer soutient vraiment l'Ukraine, quand il a un discours très chaleureux vis-à-vis de la coopération bilatérale avec la France en termes de défense et en termes militaires, il n'est pas d'extrême droite, là. Il sert vraiment...
Keir Starmer n'a jamais été d'extrême droite. Pour être honnête, d'ailleurs, le soutien britannique à l'Ukraine date déjà...
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne chasse pas seulement sur les terres d'extrême droite.
Naturellement.
C'est ça que je voulais dire.
Naturellement.
C'est quand même bonne nouvelle, ce...
D'ailleurs, il est très critiqué par Farage et les autres, qui l'accusent de revenir en arrière, de brader l'indépendance britannique. Non, Keir Starmer est un homme d'État et quelqu'un de sérieux. Et c'est évidemment l'intérêt britannique, y compris de l'industrie britannique, que de coopérer avec la France. Nous avons d'ailleurs un accord très ancien qui s'appelle Lancaster House avec les Britanniques sur la coopération en matière de défense. Il s'agit maintenant d'associer les Britanniques sous certaines conditions à la politique européenne de défense qui s'est amplifié depuis l'agression russe en Ukraine. Il y a plein d'autres sujets, je le répète, qui exigent cette coopération quotidienne avec les Britanniques, parce que nous avons affaire à un grand pays, un grand peuple, qui a une défense nucléaire, qui a une dissuasion, qui a un siège au Conseil de sécurité, et tout plaide pour que les Britanniques et les Européens, respectant le Brexit, et eux-mêmes, Britanniques respectant l'Union européenne et le marché unique, travaillent mieux ensemble pour affronter les défis qui sont devant nous et qui vont faire que nous allons vivre beaucoup de turbulences.
Mais est-ce que ça peut changer la donne pour l'Ukraine ?
Oui, ce qui changera la donne pour l'Ukraine, c'est que les Européens restent unis avec les Britanniques, avec d'autres comme la Norvège ou d'autres pays qui soutiennent l'Ukraine militairement, qui soutiennent financièrement l'Ukraine, pour que M. Poutine comprenne qu'il n'y a pas d'issue dans la guerre, qu'il y a une issue politique et qu'il arrête cette guerre. Mais ce sera le moment où M. Zelensky, le président ukrainien à qui nous avons confiance, nous dira qu'il peut arrêter la guerre et commencer à reconstruire avec un cessez-le-feu et commencer une négociation qu'il faudra bien mener un jour au niveau de la sécurité, de l'architecture de sécurité européenne à travers une grande conférence. Nous n'en sommes pas là. L'urgence maintenant, c'est d'obtenir M. Poutine qu'il revienne à la raison. Et pour ça, le fait que les Britanniques, avec la puissance qui est la leur, la crédibilité qui est la leur, et l'Union européenne agissent ensemble et soient solidaires de l'Ukraine.
Pourtant, Alex Taylor, enfin, on voit bien ce rapprochement et ce resserrement de la relation bilatérale sur les questions de défense. Et en même temps, Keir Starmer reste très attaché aux États-Unis. Il essaye de sauver, de préserver la fameuse relation spéciale entre Londres et Washington. Et c'est vrai que la Grande-Bretagne est plus attachée à l'OTAN, alors que la France voit plutôt les questions de défense comme l'autonomie stratégique. Ces différences-là, elles existent toujours. Est-ce qu'elles sont de nature à freiner le rapprochement ?
Il faut dire que Keir Starmer et Trump sont ce qu'on appelle en anglais « strange bedfellows », des gens qui partagent très étrangement le même lit, parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour s'étendre. Et même la presse britannique a été assez sévère avec l'accord que Keir Starmer a signé avec Trump, parce qu'il s'est plus ou moins aplati devant lui. Et les Britanniques commencent à s'en rendre compte, par exemple, qu'ils ont signé quelque chose avec Trump. Trump a tweeté il y a quelque temps, juste après la signature de l'accord, commence à se donner des idées sur la façon dont le Royaume-Uni doit mener sa politique énergétique. Donc, c'est paradoxal pour les gens qui ont repris le contrôle, que maintenant ils cèdent si facilement le contrôle à Trump. Les relations avec les autres pays aussi sont assez décevantes parce que il était question par Johnson de négocier un grand deal avec l'Inde. Mais en fait, ils ne se sont pas rendus compte que l'Inde allait demander beaucoup de visas pour que les Indiens viennent, alors que c'était l'une des raisons du Brexit, c'était de faire en sorte qu'il y ait moins d'étrangers qui viennent.
Objectivement, une des forces de l'Union européenne, je le rappelle, c'est ce marché unique. Et c'est aussi le fait que dans ce marché unique, nous avons une politique commerciale unique. Donc c'est l'Union européenne qui négocie des droits commerciaux ou des accords commerciaux avec tous les pays du monde. Et au nom de qui on négocie ? Pas de 60 ou de 50 millions d'habitants, comme en France ou au Royaume-Uni. On négocie Union européenne au nom de 460 millions de personnes.
Et Trump nous écoute.
C'est ça qui donne une force. Et évidemment, c'est plus difficile pour M. Starmer de négocier seul, au nom du Royaume-Uni et de sa population, avec les États-Unis ou avec l'Inde. C'est ça qui fait l'effet de masse et l'effet de levier. Je voudrais juste rappeler, puisque Isabelle Asser, vous connaissez bien ces questions de stratégie et de défense, que l'idée de l'autonomie stratégique, c'est une idée qui a été soutenue par le président de la République actuelle, mais qui est soutenue par beaucoup de chefs d'État avant lui, et depuis le général de Gaulle. Moi, je me souviens d'un accord franco-britannique qui compte beaucoup pour moi en matière de défense, entre M. Chirac et M. Blair, c'était en 98, l'accord de Saint-Malo, qui dit clairement deux mots importants. La défense européenne doit être ou devrait être autonome et solidaire. Autonome et solidaire. Ce sont les deux mots clés qui restent toujours valables. Une défense solidaire dans l'OTAN, puisque pour autant, malgré les déclarations de M. Trump, l'OTAN est toujours là, même s'il doit être rééquilibré et réaffirmé. Et c'est l'outil de la défense occidentale. Et autonome, ça veut dire aussi qu'on doit être capable, avec les Britanniques s'ils le veulent, en tout cas entre nous, d'assumer notre propre défense et donc de faire pour nous ce que plus personne ne viendra faire à notre place maintenant, on le sait.
Mais la force de frappe, ce qui est complètement paradoxal, c'est que la force de frappe nucléaire française est totalement autonome et indépendante, ce qui n'est pas le cas avec la force de frappe nucléaire britannique, parce que techniquement, ils ont besoin de l'aval des Américains, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc, c'est tout à fait paradoxal pour un pays qui est censé avoir repris le contrôle de l'Europe en question de défense. La France est plus autonome, tout en étant dans l'Union européenne, que ne l'est le Royaume-Uni sorti, qui a besoin vraiment de l'aval technique pour utiliser ses armes.
Néanmoins, s'il s'agit un jour de construire un porte-avions, de participer à la construction d'avions communs, comme on l'a fait sur Airbus en matière militaire cette fois-ci, ou d'autres frégates, on a des raisons de coopérer avec les Britanniques.
Parce que
c'est un très grand pays. Michel Barnier, aujourd'hui, vous continuez à observer ce qui se passe. Comment vous qualifieriez la relation spéciale entre Washington et Londres avec ce Brexit qui est passé devant, avec Donald Trump revenu au pouvoir, avec le reset voulu par Starmer? Elle en est où, cette relation? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle s'est affaiblie?
Il y a une proximité, vous avez rappelé Winston Churchill, bien qu'il ait fait de grands discours sur l'Europe à l'époque de la fin de la guerre. Il y a cette relation spéciale qui est liée à la langue commune, à la proximité politique, à l'histoire, à la culture. Et nous respectons tout cela. Et moi, je respecte absolument cette relation spéciale. Sauf que, avec M. Trump, vous avez maintenant un président très pragmatique et très américain. C'est America first ou America alone. Et les Britanniques seraient bien inspirés de se dire, comme nous d'ailleurs, Européens, sans naïveté, que si nous ne défendons pas nos intérêts, nos citoyens, nos consommateurs, c'est pas les Américains qui vont venir les défendre. Donc je respecte absolument cette relation particulière entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Je pense néanmoins qu'il y a pour les Britanniques un intérêt à ne pas s'éloigner trop de l'Union européenne.
Alex Taylor, sur ces questions-là?
Bah, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, c'est pas évident d'être l'ami de Trump, parce que c'est totalement imprévisible. Moi-même, par exemple, je me sens vraiment comme un alien quand je vais aux États-Unis. Le truc, c'est qu'on a tout ce qu'on dit avec des séries, parce qu'on parle la même langue, donc on se sent proche des États-Unis. Mais avec l'arrivée de Trump, il y a un sentiment anti-Trump. Je peux vous citer des sondages aussi où il y a à peu près 70% des Britanniques qui trouvent que c'est mieux de se rapprocher de l'Europe que de se rapprocher des États-Unis. Trump n'est pas très apprécié en Grande-Bretagne. La dernière fois qu'on est venu à Londres, ils ont érigé un énorme ballon gonflable avec un bébé orange là-dessus, avec le visage de Trump. Je lui souhaite bon courage parce qu'il a accepté l'invitation du roi pour venir en Grande-Bretagne au mois de septembre. Il va se faire recevoir par des Britanniques, il va y avoir beaucoup de manifestations. Donc le seul truc positif là-dedans, c'est qu'il y a un vrai sentiment pro-européen. Vous savez que l'un des pays où on agite le plus le drapeau européen en ce moment, c'est la Grande-Bretagne, parce que les gens regrettent et tout d'un coup se retrouvent une vraie âme européenne. Donc c'est en train de naître, le balancier va dans notre sens. Et d'ici 10 ans, peut-être il va y avoir un mouvement en disant « est-ce qu'on peut revenir ?» Mais de là à ce que les Européens, nous, si je peux dire les Européens, est-ce qu'on les laisse, parce que je suis français maintenant, je suis pas aussi apatride, parce que c'est ça qui est terrible avec le Brexit, ça m'a refroidi vis-à-vis de... Vous avez dit que je suis patriote britannique, je ne le suis plus. J'étais très fier de mon pays, c'est mon père qui m'a rendu fier d'être britannique et européen, le Brexit a cassé quelque chose en moi.
Mais vous avez toujours la nationalité britannique. Vous ne l'avez pas.
Parce que j'ai appris quelque chose avec le Brexit, c'est qu'on peut vous enlever tous vos droits sans même vous donner votre mot à dire là-dessus. C'est ce que j'ai appris avec le Brexit. Moi, je n'avais pas le droit de vote, on m'a enlevé des droits. Et donc, la leçon que j'ai apprise avec ça, c'est que je ne sais pas ce qui va arriver en France aussi. On risque de me faire le même coup. Qu'est-ce qui se passe si d'ici 2 ans, le Rassemblement national est voté et qu'on fasse un Frexit, tout d'un coup, on va m'enlever mes droits. Donc, j'ai les 2 passeports, parce que c'est la leçon qu'on apprend, c'est que ces droits qu'on prend pour des acquis ne sont pas si éternels que ça. Voilà.
Alors, est-ce que l'une des leçons du Brexit, justement, la seule peut-être leçon positive, pour vous contredire, pour vous apporter un argument au contraire, c'est pas justement que ça a freiné les velléités de sortir de l'Union européenne, puisqu'on n'entend plus vraiment parler.
C'est une des choses extraordinaires, c'est qu'il y a beaucoup moins de Frexit dans l'air.
Écoutez, je pense qu'il faut rester vigilant. Nous arrivons sans doute au terme de notre dialogue, et merci encore de cette invitation. La première leçon, elle est que le Brexit reste un non-sens sur le plan économique. Et on trouvera rarement un pays, en période de paix, qui prenne une décision aussi grave, contraire à son intérêt national économique.
C'est clair.
Objectivement, de quitter l'Union européenne et de quitter surtout le marché unique et l'union douanière en ce moment, de se trouver seul dans le grand large de ce monde de plus en plus dangereux, de plus en plus instable et injuste et fragile, c'est un non-sens. La deuxième leçon, c'est qu'il faut faire attention aux raisons pour lesquelles les Britanniques, vos compatriotes, ont voté à 52% à peine le Brexit. Il y a des raisons qu'il faut écouter et comprendre, je l'ai dit 3 fois, je le répète, et c'est une des leçons pour nous-mêmes en France. Quant à ce que vous dites, Isabelle Lasserre, je ne crois pas que ce soit vrai. J'ai, dans le livre que j'avais publié, rappelé cette phrase de Madame Le Pen le soir du 23 juin. Elle écrit « Nous vibrons avec les Britanniques qui ont saisi cette opportunité extraordinaire de sortir de la servitude. »
C'était au moment du Brexit,
oui, mais je n'ai jamais entendu Madame
Depuis
Le Pen.
Depuis le Brexit,
je n'ai jamais entendu Madame Le Pen ou Monsieur Bardella dire qu'ils se sont trompés en prononçant cette phrase. Jamais ils ne sont revenus en arrière en disant finalement nous nous sommes trompés. Donc ça prouve une chose, c'est qu'ils cachent bien leur jeu, qu'ils pensent sans doute toujours la même chose s'ils n'ont pas démenti cette phrase. Et donc il faut prendre garde. Je pense que dans les idées de ce parti d'extrême droite, comme d'ailleurs de l'extrême gauche française, il y a toujours l'idée qu'il faut se replier sur soi-même, qu'on est plus heureux ou plus fort quand on est tout seul. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Il faut aussi répondre aux inquiétudes des citoyens. Et je connais bien Bruxelles et j'y ai beaucoup travaillé sans naïveté. Corriger un certain nombre de choses. J'ai parlé de la bureaucratie, j'ai parlé de la naïveté, j'ai parlé des normes. Il y a plein de choses à corriger à Bruxelles, mais de grâce, restons ensemble, parce que dans le monde qui vient, pour défendre nos intérêts et nos valeurs, il vaut mieux être ensemble.
Donc, finalement, vous avez peut-être raison, Alex Taylor, de penser qu'il y a un risque et vous devriez peut-être prendre un troisième passeport.
Peut-être, oui. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est... Enfin, je disais toujours, quand je faisais des émissions sur l'Europe, il faut rendre l'Europe sexy. Il faut qu'il y ait un côté affectif avec l'Europe, qui manque en France. Il faut faire des événements européens. Il faut que les gens puissent se sentir...
Je suis d'accord avec ça.
Alors, j'ai une question pour tous les deux, justement, sur ce sujet. Est-ce que le Brexit a rendu l'Europe plus sexy?
Non. Les gens sont conscients, je suis d'accord avec Michel Barnier, les gens sont conscients de l'erreur économique du Brexit. Mais cela n'a pas pour autant déclenché une ferveur affective. C'est ça qui manque à l'Europe.
Je suis d'accord, absolument. Le Brexit a une conséquence, c'est qu'il a accentué le devoir de lucidité des Européens. On est en train de réduire les normes après les avoir beaucoup multipliées depuis quelques années, notamment de manière insensée sur les entreprises ou à propos de l'environnement. Et pourtant, je dis ça en étant un militant d'une écologie humaniste et concrète. On a moins de naïveté dans nos échanges commerciaux, même si je regrette les conditions dans lesquelles on a négocié le Mercosur. Il y a plein de sujets sur lesquels on est plus responsable et moins naïf. Pour autant, on n'a pas réussi encore à faire aimer ce projet européen. Et pour ça, il faut faire autre chose que de la technique, de la finance ou de la bureaucratie. Il faut toucher les gens, il faut les associer. Des politiques régionales qui touchent les gens dans leur vie quotidienne. La musique, qui n'a pas besoin de traduction. Le sport, je plaide pour qu'à Bruxelles, on se réveille un jour en disant pourquoi ne pas avoir ensemble une politique mieux coordonnée en faveur non pas seulement de grands événements comme les Jeux Olympiques, mais d'une pratique sportive qui est utile pour le bien-être, pour la santé publique, pour l'esprit collectif, pour le fair play aussi. Il y a plein de sujets sur lesquels on devrait toucher au niveau européen davantage les gens qu'on ne touchera jamais avec de la technique ou de la finance.
Pour vous, Alex Taylor, ce serait quoi une Europe sexy ?
Une Europe sexy, c'est, enfin, je cite un exemple un peu banal, mais le concours Eurovision de la chanson, par exemple, c'est un vrai événement européen. Il n'y a pas assez d'événements où tous les Européens regardent en même temps. Le foot, c'est assez binaire. En général. Mais il n'y a pas assez d'événements. Il y a 200 millions de téléspectateurs qui regardent le même événement et qui agitent. Moi, j'étais choqué l'année dernière, par exemple, au concours Eurovision de la chanson, qu'on n'avait pas le droit d'agiter le drapeau européen. Mmh. Ce concours qui a été né dans les affres, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est un vrai événement qui a une histoire européenne. Vous savez où est l'événement où on agite le plus le drapeau européen ? C'est quand même le comble du ridicule. C'est un truc à Londres, c'est pour The Last Night of the Proms, le dernier concert, des concerts promenades retransmis à la BBC, où on chante des hymnes patriotiques britanniques, Rule Britannia. Ils sont tous là. Jusqu'à il y a 5 ans, ils n'agitaient que des drapeaux britanniques. Et maintenant, il y a un mouvement pour prouver que les gens rejettent ce genre de patriotisme un peu enfantine. Et la moitié des gens viennent avec des drapeaux européens. C'est bien le comble. C'est le seul endroit en Europe vous allez voir des gens agiter avec autant de fierté le drapeau européen. C'est à Londres.
Michel Barnier. Et alors, il ne faut pas donner le sentiment à ceux qui nous écoutent et aux autres que la patrie n'est plus valable.
Pas du tout, je ne dis pas ça, mais on peut être fier.
Je pense que l'Europe peut être en plus de la patrie.
Moi, je suis fier d'être français et européen, mais plus tellement britannique.
La patrie est là, c'est notre réalité, c'est notre passion, c'est notre raison d'être, d'être ensemble. Et il faut que l'Europe vienne en plus et pas à la place. Et puis, il faut tout simplement trouver le moyen de remettre l'homme au cœur du projet européen, ce qui a cessé d'être depuis quelques années. Même si on fait l'Europe pour les citoyens, je le pense profondément, on l'a trop souvent faite sans les citoyens.
Michel Barnier, vous qui avez négocié la sortie, enfin le Brexit, est-ce que vous verriez négocier la réentrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne ?
Écoutez, j'ai toujours le souci d'être utile et à mon pays, je suis engagé dans le débat politique et il y a besoin d'être engagé en ce moment. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent, quelles que soient nos idées, il faut être engagé parce que si on ne s'occupe pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Et je suis toujours prêt à être utile au niveau européen, mais je ne sais pas quel sera le destin et mon destin, je ne sais pas non plus quel sera l'avenir. En tout cas, je reste marqué par cette expérience qui reste, permettez-moi de le dire, une expérience négative parce que le Brexit, c'est un divorce. Je ne connais pas beaucoup de côtés positifs dans les divorces et j'ai aussi c'est d'organiser ce divorce de la meilleure manière possible pour qu'il ait le moins de conséquences possibles. Mais ça reste un divorce, ça reste un accord lose-lose. Et c'est pas gagnant-gagnant, c'est le contraire. C'est perdant-perdant, le Brexit pour les deux côtés. Donc je regrette beaucoup. J'étais très passionné par cette négociation compliquée de préserver l'unité des 27 qui n'est pas tombée du ciel, qui n'était pas due au hasard, qui est due à un vrai travail de toute mon équipe à Bruxelles. Et je reste heureux d'avoir défendu les intérêts de l'Europe sans agressivité avec les gardes britanniques. Je n'ai pas fait preuve d'esprit de revanche, mais d'avoir défendu les intérêts de l'Union européenne, surtout dans le moment grave où nous sommes en ce moment.
Alors j'ai quand même encore une autre question. Qu'est-ce qui est le plus difficile, de négocier le Brexit ou de gouverner la France ?
Les deux sont difficiles. Mais encore une fois, le Brexit est une négociation négative. Moi, je suis plutôt dans l'idée de consacrer mon énergie, mon expérience à des projets positifs. Je l'ai décrit dans les livres que je viens de publier, à travers ces chroniques, notamment les Jeux Olympiques ou d'autres. Mais gouverner la France, ça doit être positif, même si c'est difficile. Ce qui m'est arrivé, c'est que je n'ai pas eu de majorité, que je n'ai pas voulu faire n'importe quoi. Donc je me suis trouvé dans une Assemblée nationale impossible, où beaucoup d'hommes politiques, de droite et de gauche, n'étaient pas à la hauteur des enjeux et de la gravité de la situation. J'espère que ça reviendra très vite à la faveur des prochaines élections.
Et Alex Taylor, si un jour le Royaume-Uni revient dans l'Union européenne, vous défendrez à nouveau votre pays plus que la France ou pas ?
Ça me réconcilierait avec cette Grande-Bretagne européenne dans laquelle j'ai beaucoup cru et que j'ai un peu perdu de vue depuis, mais qui a le mérite de m'avoir rendu un vrai patriote européen.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette émission consacrée au Brexit. Merci encore Michel Barnier et merci Alex Taylor. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Dali Yaha. Attachée de production, Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.